Chapitre 5. Mon voyage en Afrique occidentale. J'avais toujours eu l'intention de faire un voyage comme médecin à bord de navire le jour où j'aurais décroché mon diplôme. Je verrais ainsi quelque chose du monde, en même temps que je gagnerais un peu de cet argent dont j'avais tant besoin, si je voulais me lancer dans la carrière médicale. On ne prend guère au sérieux un praticien de 20 ans, et bien que j'eusse l'air plus vieux que mon âge, je devais, de toute évidence, commencer par chercher un emploi de mon temps ailleurs qu'auprès d'une clientèle. Mes projets étaient des plus vagues. Je me sentais d'égale disposition pour l'armée, la marine, le service des Indes, pour n'importe quoi, qui m'offrit l'occasion d'un début. Je n'avais aucune raison de croire que je trouverais un engagement sur un navire à passagers. Aussi avais-je presque oublié que je m'étais fait inscrire quand je reçus à l'improviste un télégramme m'appelant à Liverpool pour y embarquer comme médecin sur le Mayumba de la compagnie africaine de navigation à vapeur, en partance pour la côte occidentale. La semaine d'après, j'étais à mon poste. Nous appareillâmes le 22 octobre 1881. Le Mayumba était un coquet petit vapeur d'environ 4000 tonneaux, gigantesque au regard du baleinier sur lequel j'avais précédemment servi, et qui, lui, n'en jaugeait que 200. Construit pour le commerce, il portait à la côte occidentale des marchandises diverses. Il en ramenait de l'huile de palme en fût, des noix de palme en vrac, de l'ivoire et autres produits des tropiques. Huile de baleine et huile de palme, il semblait y avoir quelque chose d'huilé dans mon horoscope. Le navire pouvait prendre de 20 à 30 passagers, c'est par considération pour eux qu'on m'a payé quelques 12 livres de solde mensuel. Heureusement, nous tenions bien la mer, car nous tombâmes tout de suite dans une tempête qui, au moment où nous sortions de la Mersey, devint si violente que nous dûmes nous réfugier à Holyhead pour la nuit. Le lendemain, par un très gros temps couvert et une mer très forte, nous descendîmes la mer d'Irlande. Je me figurais toujours que j'ai pu sauver le navire d'un désastre. Comme, en effet, je me tenais près de l'officier de quart, je vis tout à coup, par bâbord avant, un phare apparaître dans une trouée de la brume. Je ne concevais pas cette existence d'un phare à bâbord d'un navire que je savais être assez bas sur la côte d'Irlande. Mais je n'ai aucun goût pour le rôle d'alarmiste, et touchant simplement l'officier au bras, « Vous êtes bien sûr de votre route ?» lui dis-je. Il bondit en apercevant le phare, vociféra un ordre à l'homme de barre, sonna de toute sa force un signal à la chambre des machines. Le phare, si j'ai bonne souvenance, était le Tuscar. Nous allions droit sur un promontoire rocheux que nous avait caché la brume et la pluie. J'ai toujours eu de la chance avec mes capitaines. Le capitaine Gordon était des meilleurs et nous sommes restés dans la suite en relation pendant des années. La plupart de nos passagers se rendaient à Madère. Cependant, il se trouvait aussi dans le nombre quelques dames très aimables qui avaient pour destination la côte occidentale et quelques trafiquants noirs de là-bas, personnages déplaisants, dont les façons et la conduite laissaient fort à reprendre, mais qu'il fallait bien tolérer, car ils étaient les patrons de la ligne. Certains de ces gros négociants en huile de palme ont des revenus annuels de plusieurs milliers de livres, mais leurs goûts n'en sont pas pour cela plus raffinés, et ils ne savent que dépenser leur argent dans la boisson, la débauche et les pires extravagances. La tempête nous suivit dans la Manche et jusque dans la traversée du golfe de Gascogne, ce qui est anormal, je suppose, à cette époque de l'année. Tout le monde était malade, en sorte que j'eus beaucoup à faire. Mais aux approches de Madère, nous trouvâmes enfin du beau temps, et nos ennuis furent vite oubliés. On ne conçoit l'agrément d'un pont sec que lorsqu'on a, pendant une semaine, trempé dans l'eau jusqu'aux chevilles. Je regrettais les bottes marines et l'équipement grossier, mes commodes, du baleinier, car on ne tient guère à prendre des douches quand on est en costume de serge bleu à boutons d'or. Nous nous jugions installés au beau fixe, quand nous fûmes assaillis par une nouvelle tempête et des pires. Le vent arrière favorisait par bonheur notre marche. Avec le foc, la voile goélette et la grande voile, qui étaient tout ce que nous pouvions porter de toile, nous roulions et dansions, balayés par les grandes lames crêtées de l'Atlantique qui, phosphorescentes la nuit, faisaient courir sous le pont des traînées de feu liquide. Nous nous félicitâmes, lorsque, après une semaine de tourmente, nous découvrîmes les sommets sourcilleux de Porto Santo, sentinelle avancée de Madère, et qu'enfin nous mouillâmes à la nuit venue dans la baie de Funchal. C'était une joie que de voir les lumières de la ville, et derrière elle, l'obscure masse des hauteurs. Un arc-en-ciel lunaire déployait son éventail sur le paysage, phénomène rare que je n'avais jamais vu, que je n'ai pas revu depuis. Après cela, nous fîmes escale à Tenerife, dans le port de Santa Cruz. Il s'y faisait un grand commerce de cochenilles. On élevait ces insectes sur des cactus. Desséchés, ils fournissaient la teinture du même nom. le sac de cochenille se payait en moyenne à l'époque 250 livres. Je présume que les teintures allemandes d'aniline auront tué ce trafic aussi complètement que les huiles minérales ont tué la chasse à la baleine. Nous touchâmes le lendemain à Las Palmas, capitale de la Grande Canarie. Nous nous eûmes, en regardant derrière nous, une très belle vue du fameux pic de Tenerife, à la distance d'environ 60 000. Au sortir de Las Palmas, nous entrâmes dans la région des Alisiers de Nord-Est. Région délicieuse, magnifique entre toutes celles de l'océan. La mer y est rarement dure, bien qu'elle soit toujours en mouvement et que les vagues s'y pressent, coiffées d'écume. Cependant, la température devenait de plus en plus chaude. Le jour où, quittant les Alizés, nous aperçûmes l'île de Los au large de la côte de la Sierra Leone, nous commençâmes de savoir ce que l'on entend par les tropiques. Vous avez vraiment la sensation d'y arriver lorsqu'au repas, votre serviette vous devient un poids intolérable et que vous remarquez une tache d'humidité à l'endroit où vous l'avez posée sur votre pantalon de toile blanche. Le 9 novembre, nous atteignîmes Freetown, capitale de la Sierra Leone, un lieu charmant, mais un séjour de mort. Je parle du temps où le paludisme y sévissait encore, avant que Ronald Ross et d'autres eussent accompli leur grande œuvre curative et préventive. Le désespoir qui régnait au cœur des Blancs leur faisait prendre, avec l'alcool, des libertés où ils ne se fussent pas risqués sous un climat moins insalubre. Un an de séjour y semblait marquer la limite de l'endurance humaine. Comme je complimentais de sa bonne mine un résident qui m'avait dit être là depuis 3 ans, il hocha la tête. « Je suis un homme perdu, me dit-il. J'ai hâté le mal de Bright. » On doutait si les colonies valaient bien le prix que nous devions y mettre. De la Sierra Leone, nous passâmes à Monrovia, capitale de la République noire du Libéria, qui eut pour fondateurs principaux, ainsi que l'indique son nom, des esclaves fugitifs. Le pays, autant que j'en peux voir, est assez régulièrement administré, mais les petites communautés, lorsqu'elles se prennent au sérieux, ont toujours un air comique. Ainsi, lorsque de la guerre franco-allemande, la République du Libéria envoya sa vedette des douanes, seule unité de sa flotte officielle, arrêtait le bateau-poste pour demander par lui à l'Europe qu'elle n'entendait point intervenir dans le conflit. Côte d'Ivoire, Côte de l'Or ou littoral libérien, le spectacle est des plus monotones. Partout les mêmes caractéristiques, soleil torride, longue houle formant des lignes blanches de brisant, plage de sable doré, puis la brousse verte, que domine loin en loin un palmier. Qui a vu un mille a vu des milliers de milles. Tandis que j'écris ceci, tous les ports où nous abordâmes, Grand Bassam, Cap Palmas, Accra, Cape Coast Castle, ne présentent à mon esprit qu'un seul et même tableau. À je ne sais quel village, nous vîmes accourir vers nous un grand jeune Gallois furieusement ému. Une mutinerie de ces Noirs lui donnait à craindre pour sa vie. « Ils m'attendent !» nous cria-t-il, en nous désignant un groupe sombre au loin sur la plage. Nous lui offrîmes de le prendre à bord, mais il ne pouvait abandonner son exploitation. Tout ce que nous pûmes faire pour lui, ce fut de lui promettre que nous lui enverrions une canonnière de Cape Coast Castle. Je me demande ce qu'ont pu devenir des gens comme lui quand la menace allemande nous eut forcés, en 1914, de rappeler nos bateaux des stations lointaines. La côte est pointillée la nuit d'incendies, parfois considérables, dus sans doute à l'habitude invétérée qu'ont les naturels de brûler les herbes. C'est une particularité intéressante que signale déjà la relation du voyage de Hannon sur cette côte. Ce seul échantillon de la littérature carthaginoise qui soit venu jusqu'à nous parle des feux que le navigateur apercevait la nuit. Comme il fait mention des gorilles, on peut tenir pour probable qu'il poussa jusqu'au Gabon ou jusqu'au sud de la ligne. Il fut témoin d'une grande activité volcanique dont on voit encore les vestiges à Fernando Po, qui n'est presque tout entière qu'un volcan. De son temps, les hauteurs crachaient du feu. Le pays n'était qu'une mer de flammes, en sorte qu'il n'osa mettre le pied à terre. Je me suis demandé bien des fois si le cataclysme dont périt l'Atlantide ne serait pas plus récent qu'on ne pense. D'après Platon, il daterait d'environ 9 000 ans avant notre ère, mais il aura pu se produire graduellement, et le dernier épisode en serait celui dont Hannon vit les traces. Toute cette activité qu'elle nous a décrite avait son siège à l'opposite même de l'emplacement qu'on attribue au continent disparu. Nos navires, pendant qu'ils descendent la côte, usent de procédés expéditifs et sommaires. Nous démarrâmes un jour, alors que nous avions encore à bord une centaine de visiteurs indigènes. Ce fut chose risible que de les voir se jeter à la mer pour rejoindre leur canot. L'un portait un chapeau de haute forme, un parapluie et une image coloriée du Christ, tous objets achetés par lui à ses éventaires, que les matelots dressent sur le gaillard d'avant. Il n'en fut point gêné dans sa nage. Devant un port de moindre importance, le temps pressant, nous envoyâmes simplement par-dessus bord une cargaison de douves, sachant que tôt ou tard elles atterriraient dans la rade. Ce que j'ignore, c'est comment le destinataire put faire valoir ses droits. Les indigènes gagnent quelquefois à ce jeu. Il y a un certain nombre d'années, avant que la France n'eût annexé le Dahomey, le capitaine d'un navire, à Ouida, s'avisa d'embarquer des barils d'huile à l'aide d'un long câble muni par un treuil, moyen ingénieux d'éviter la barre. L'opération fut interrompue tout d'un coup par l'arrivée d'une compagnie des fameuses Amazones qui menacèrent de faire feu sur le navire si l'on ne payait pas au canot de transbordement le tribut ordinaire. Moi-même, je payais mon tribut au climat, ce dont témoigne, dans mon journal, une lacune significative à la date du 18 novembre. Nous venions d'arriver à Lagos. Une houle grasse nous berçait sur la vague, lorsqu'un mauvais germe, la piqûre d'un moustique ou je ne sais quoi, détermina chez moi une brusque attaque de fièvre. Il me souvient que je gagnais qu'un cas à ma couchette. Là, tout s'effaça pour moi. J'étais le médecin du navire. Il n'y avait donc personne pour me soigner. Et je restais couché plusieurs jours, menant un combat très serré contre la mort, sans aucune assistance. Si j'en sortis victorieux, c'est à l'honneur de ma constitution. Je ne me rappelle ni phénomène physique, ni hallucination, ni frayeur. Rien qu'un brouillard de cauchemar, d'où je sortis aussi faible qu'un enfant. L'alarme avait dû être chaude. À peine me levai-je, on me dit qu'un autre passager, atteint du mal, y avait succombé. La semaine d'après me trouva, convalescent et plein d'une énergie nouvelle, sur le fleuve Bonny, qui certainement ne tire point son nom du vocabulaire écossais, car il est de tout point odieux, avec ses eaux brunes et fétides, et ses marais peuplés de manguiers. Les naturels d'alentour sont de purs sauvages, qui offrent des sacrifices humains aux requins et aux crocodiles. Notre capitaine avait un jour entendu les cris des victimes. Il les avait vus traîner au bord de l'eau. Dans une autre occasion, il avait aperçu, sortant du sol, le crâne d'un homme qu'on avait enterré vivant dans une fourmilière. On a bientôt fait de railler nos missionnaires, mais sans le dévouement et le zèle de pareils hommes, améliorerait-on jamais ces populations? Nous visitâmes Fernando Po, puis Victoria, charmant petit établissement de la terre ferme, en arrière duquel se dresse la cime énorme des Camerounes. Une brave jeune Écossaise, type de la ménagère accomplie, y jouait le rôle de missionnaire. Si elle n'évangélisait pas, elle civilisait, ce qui est plus important. Victoria est située au fond d'une belle rade parsemée d'îles et ceinte de bois. Le décor ici change tout à fait de style. À quoi cela est dû, je ne sais, et la surprise, après la monotonie des milliers de milles qu'on vient de laisser au nord, est d'autant plus heureuse. Pour une raison quelconque, tout le pays est allé plus tard à l'Allemagne, des mains de laquelle il est ensuite passé à la France. Je me souviens du saisissement que j'éprouvais lorsqu'une espèce de grand oiseau bleu ayant volé au-dessus de moi, je m'aperçus que c'était un papillon. Pour gagner vieux qu'à la barre, nous eûmes à faire 60 000 sur le fleuve du même nom. Le chenal était si rapproché de la rive que notre passage froissait les arbres. Armé de mon fusil, j'épiais les alligators. Plusieurs fois, je vis les remous qu'ils déterminaient à la surface, mais aucun n'émergea. Vieux Calabar me parut l'endroit le plus développé et le plus florissant que j'eusse visité. Là aussi la mort, hélas, allongeait sa main sur tous. Il n'était que de s'abandonner à la vieille loi fatale et de manger, boire, mener la vie joyeuse. Nous rencontrâmes une autre de ces jeunes femmes qui se font dans le pays les pionnières de la civilisation. La civilisation peut s'en louer, mais quelle vocation terrible que celle qui engage une femme dans une pareille entreprise. M'étant procuré un canot, je remontai la rivière sur plusieurs milles jusqu'à un endroit dénommé Creek Town. De tous côtés s'étendaient de noirs et redoutables marécages. Les palétuviers y formaient de sombres retraites où rien ne pouvait vivre que d'horrible. Lieu immonde en vérité. Une fois, sur un arbre qui se dressait tout seul au-dessus d'un espace inondé, je vis un affreux serpent qui pouvait mesurer 3 pieds de long. Je lui tirai une balle, et il s'en alla au fil du courant. J'ai appris plus tard à respecter la vie des animaux, mais je confesse que celui-là ne me laisse pas de remords particuliers. Creek Town est sur le territoire d'une peuplade indigène, dont le roi nous fit sommer péremptoirement de nous présenter devant lui. Cette fantaisie ne nous présageant rien de bon, outre qu'il en pouvait résulter pour nous un grand retard, nous nous hâtâmes de reprendre nos pagaies pour entrer dans les eaux anglaises. J'eus ce matin-là une curieuse aventure. Un grand poisson en forme de ruban, long d'environ 2 ou 3 pieds, va nager à la surface près du navire. Ayant mon fusil sous la main, je le tirai. 3 secondes ne s'étaient pas écoulées, je crois, lorsqu'un deuxième, plus grand et plus gros, une espèce d'énorme roussette, jaillit des profondeurs, saisit le blessé par le milieu du corps et l'entraîna sous les eaux. Tant son vigilant et meurtrier l'instinct, l'appétit de la nourriture. J'ai vu quelque chose de semblable dans un aquarium où s'étaient réunis des poissons de diverses espèces. Un d'eux, étourdi par la brusque rencontre d'une paroi vitrée, fut instantanément happé et dévoré par son voisin. Un étrange poisson, dont je fis la connaissance à Calabar, c'est la torpille. On vous présente sur une écuelle de terre cette petite bête de couleur fauve et d'aspect tranquille. On vous invite à lui chatouiller le dos et vous apprenez alors à quelle hauteur vous pouvez sauter. L'impression de pays homicide que me donnait l'Afrique ne cessait pas de croître en moi. Je sentais que l'homme blanc, avec son régime et ses habitudes d'aujourd'hui, y est un intrus, que jamais il n'a été fait pour y vivre, et que ce grand continent sinistre le brise comme on brise un œuf. Je lis dans mon journal « Afrique, où sont-ils donc le charme et le mystère que le sage a vu dans tes yeux ? Ah, plutôt mendier dans la vieille Angleterre, qu'être riche sous de tels cieux !» Cependant, la vie du bord était facile et même, à certains égards, luxueuse. Trop luxueuse pour un jeune homme ayant à faire son chemin dans le monde. Car un confort prématuré est chose dangereusement énervante. Un jour, qu'au milieu d'un violent orage, debout sur la dunette, je faisais des rêves d'avenir. Je compris très clairement qu'un ou deux autres voyages du même genre seraient funestes à mes habitudes de simplicité et que j'en reviendrais désarmé pour le dur combat que tout ordre de succès réclame. L'idée du succès littéraire ne m'avait jamais traversé la cervelle. Je ne pensais toujours qu'à la médecine. Mais je savais déjà quelle longue et pénible carrière elle ouvre devant ceux qui n'ont ni un appui, ni les moyens de se payer une clientèle. Séance tenante, je me jurais de ne plus vagabonder, et ce fut là, sans aucun doute, l'un des tournants de ma vie. 1 an d'existence nomade, c'est bien. 2, cela peut être un désastre. On n'aura plus la force de s'arrêter. Mon journal me rappelle que le même jour où je me livrais à ces réflexions profitables, je fis serment de renoncer à l'alcool pour tout le reste du voyage. Je buvais sans retenue à cette époque, ayant une tête et une constitution qui me garantissaient suffisamment l'immunité. Mais la raison m'avertit du péril que représentaient les innombrables cocktails de l'Afrique occidentale, et je me les retranchai au prix d'un effort. Il y a dans la tempérance un plaisir subtil, c'est seulement en société qu'elle est difficile. Si elle était chez nous de pratique courante, comme chez les vrais musulmans, nul n'y voudrait manquer. Soit bravade, soit folie pure, je fis une chose insensée à Cape Coast Castle. Je m'offris une partie de nage, aller-retour, aux abords ou plutôt le long du navire. Ce qui m'y engagea, c'est, je suppose, le fait que les nègres se baignent constamment dans ces eaux. Or, tandis que je me séchais sur le pont, je vis la queue d'un requin apparaître à la surface. J'ai plusieurs fois dans ma vie agi d'une façon si inconsidérée que je ne me l'expliquais pas ensuite. L'homme le plus intelligent que je rencontrais sur la côte, celui qui avait le plus de lecture, était un noir, consul d'Amérique à Monrovia. Il vient à notre bord comme passager. Mon goût pour les lettres me rendait friand de bonnes conversations, et pendant qu'assis sur le pont nous discutions des historiens comme Bancroft et Motley, c'était pour moi chose merveilleuse de m'aviser tout d'un coup que j'avais pour interlocuteur un fils d'esclave, peut-être ancien esclave lui-même. Il avait beaucoup réfléchi sur l'exploration de l'Afrique. La seule façon de l'explorer, disait-il, c'est d'aller sans armes, avec un petit nombre de serviteurs. Il ne vous plairait pas, en Angleterre, de voir circuler chez vous une troupe de gens armés jusqu'aux dents. Les Africains ne sont pas moins susceptibles. C'était la méthode de Livingstone, contraire à celle de Stanley. Des deux, le premier avait le plus de courage et le plus de mérite. Ce gentleman noir me fit du bien, car le cerveau d'un homme lui sert non seulement à former ses idées, mais à digérer celles des autres, et il a besoin d'une alimentation renouvelée. Assurément, nous avions des livres à bord, mais en petit nombre et de valeur médiocre. Je ne cache pas que je n'ai réalisé aucun progrès mental ou moral durant mon voyage. Mais j'ajoutais au chapelet de mes expériences, et je crois qu'en définitive, tout est profit pour la personnalité et le caractère. J'étais un robuste jeune homme, plein de sang, heureux de vivre, n'ayant rien de ce qu'Olivier Wendell Holmes appelle la piété pathologique et les vertus tuberculeuses. Humain parmi les humains, j'allais à travers les embûches. Grâce soit rendue aux anges secourables qui me les firent éviter. Quant aux autres, je ne leur garde pas rancune. Aucun événement ne marqua jusque vers la fin notre voyage de retour. Nous revisitions chaque port dans un ordre inverse pour y charger de l'huile. Mais comme nous venions de dépasser Madère, le feu prit à bord. S'il fut occasionné par l'inflammation du poussier de charbon ou par une autre cause, c'est ce qui n'a jamais été établi. Le fait est qu'il prit dans les soutes. Une simple cloison de bois les séparait de la cargaison d'huile, ce qui constituait pour nous la plus grave menace. Malgré cela, nous le traitâmes, le premier jour, comme un commencement d'incendie sans importance. Le deuxième et le troisième, nous nous contentâmes de fermer les grilles aussi hermétiquement que possible, de taquiner le feu avec le manche à eau et d'éloigner le charbon de l'huile. Mais le quatrième au matin, les choses semblèrent tourner au pire. Je lis dans mon journal. 9 janvier. J'étais réveillé ce matin par l'agent comptable Tom King. Passant la tête dans l'entrebâillement de ma porte, il m'informa que le navire flambait et que tout l'équipage, rassemblé dans les cales, s'occupait de le combattre. J'enfilai mes vêtements et je montai sur le pont. On ne voyait plus rien que d'épaisses masses de fumée vomies par les ventilateurs des soutes, éclairées d'en dessous par une lueur blafarde. J'offris de descendre, mais on avait autant de travailleurs qu'on en pouvait utiliser. On me pria d'aller plutôt voir les passagers. Je les réveillai les uns après les autres. Tous envisagèrent la situation avec bravoure et sang-froid. L'un d'eux, qui était un Suisse, s'assit sur sa couchette, se frotta les yeux, et comme je lui annonçais que le navire était en feu, « Je me suis souvent trouvé sur des navires en feu, » me répondit-il. « Forfanterie évidente, mais beau trait de courage. » Nous combattîmes l'incendie toute la journée. Il y avait un endroit de la coque où les tôles étaient portées au rouge. On para les embarcations, on y mit des vivres. Au pis-aller, nous pouvions, à la voile ou à la rame, gagner Lisbonne, où mes sœurs, qui faisaient courageusement dans cette ville le métier d'institutrice, ne seraient pas peu surprises en voyant arriver leur grand frère. Cependant, nous nous rendions maîtres des flammes, et à la fin du jour, les sinistres colonnes de fumée se réduisaient à de minces gerbes. Ainsi se termina l'incident. Nous nous trouvâmes le 14 janvier à Liverpool. Désormais, l'Afrique occidentale n'était qu'un film de plus dans le cinéma de ma mémoire. Elle a, me dit-on, beaucoup évolué depuis, sous tous les rapports. Mon vieil ami et compagnon de cricket, Sir Fred Guggisberg, aujourd'hui gouverneur d'Accra, m'a sollicité d'aller voir tous les changements qui s'y sont accomplis depuis ma jeunesse. Mais le sable coule sans arrêt dans le sablier, et l'on a toujours tant à faire.